Chapitre 32. Le retour de l'espion.
Zizo !
Chrysanthe fut la première à repérer sa silhouette qui se détachait sur le pont traversant le fleuve, face au tipi.
Zizo !
Répéta-t-elle. Elle abandonna sa poupée au milieu de l'herbe, sur son lit de pâquerette, et courut à perdre haleine. Elle se retrouva face à lui alors qu'il descendait les marches vers le tipi. Tout en les gravissant, Chrysanthe ne parvenait pas à détacher ses yeux du sourire radieux du garçon.
« Zizo, c'est bien toi !»
Elle lui sauta au cou. Ses deux pieds décollèrent et elle manqua de peu de le faire tomber à la renverse.
« Tu es revenu ! Tu es revenu ! Tu es vivant !»
Elle l'embrassa sur les joues. Son petit cœur tremblait. Elle pleurait de joie. Zizo n'osait plus bouger. Puis, aussi vite qu'elle était venue, elle repartit en criant
« Zizo est revenu ! Zizo est revenu ! Zizo est vivant !»
Zizo continua de descendre doucement les marches, mais Chrysanthe avait déjà récupéré Lali et dansait avec elle.
« Zizo est de retour ! Zizo est de retour !»
Alertés par les cris de Chrysanthe, presque tous les enfants sous le tipi s'arrêtèrent de coudre leurs armures d'écorce ou d'aiguiser leurs pieux de bois. D'autres descendirent à toute vitesse des étages du tipi. Au moment où Zizo parvint entre les quatre pieds de fer, une bonne trentaine d'enfants l'attendaient déjà. En contraste aux cris de Chrysanthe, tous le fixaient silencieusement, comme s'il était une statue de pierre qui se serait mise à marcher, ou pire encore, un mort qui serait sorti de sous la terre. Tous, garçons et filles, paraissaient stupéfaits. Zizo était tout autant étonné. Il ne savait pas où poser ses yeux. Il y avait tant de changements. Son regard s'attarda sur cet étrange champ de sable sous le tipi qui ressemblait à une plage où les vagues auraient abandonné des algues vertes bien rangées. Puis il détailla ces tas de pierres, toutes longues et effilées, empilés à côté de rangées de pieux de bois. Était-ce des armes? Des dizaines d'armes? Plus bizarre encore, Zizo observa longuement les déguisements de certains enfants. Mouk portait une fourrure de gnou. Caméliane, des cornes d'élan. Bill, un pelage de hyène. Malgré la chaleur déjà écrasante ce matin-là, les enfants semblaient supporter ces étranges costumes. Zizo, rien qu'avec sa veste sur les épaules, avait déjà trop chaud. Étaient-ils tous devenus fous? Seul Vanille ne portait qu'une jupe de toile légère. Elle sourit en lui adressant un signe de la main, puis se concentra à nouveau sur l'inventaire des armes. Incroyable! Son ami paraissait avoir pris 10 centimètres depuis qu'il était parti. La petite blonde qu'il avait quittée était devenue presque aussi grande que Sabi. Zizo pensait avoir fait le tour de ce qui avait changé. Quelques détails au final, le tipi se tenait toujours là, sur ses quatre pieds, et il reconnaissait chaque visage. Chaque visage, sauf un. Il chercha désespérément, scruta dans la foule qui lui faisait face, leva les yeux vers les derniers enfants qui descendaient les marches de la tour de fer. Agnelle n'était pas là. Son trouble se transformait en peur, en une angoisse pesante qui lui comprimait le cœur et asséchait sa gorge. Agnelle n'était nulle part. Tout le monde s'était réuni pour l'accueillir, sauf son ami. La foule en arc de cercle se fendit soudain. Zizo repéra d'abord la large carrure d'Akan, puis, derrière lui, la frêle silhouette de Mordelia. Akan s'avança vers lui et le serra dans ses bras. « Je suis content de te revoir, Zizo, de te revoir vivant. » Zizo aima la force qui se dégageait d'Akan. Akan avait toujours été un chef raisonnable. Zizo se rendait compte qu'on attendait de lui qu'il parle, qu'il raconte tout. Mais par quoi commencer? Il ne réfléchit pas et posa la seule question qui lui importait. « Où est Agnelle ?» Il perçut un léger grondement dans la foule. Une sorte de complainte. La joie sur les visages s'était d'un coup transformée en crainte. Akan prit Zizo par les épaules. Il est parti dans la forêt, dit-il d'une voix grave. Il y a longtemps, Il n'est jamais revenu.
Jamais revenu ?
Paniqua Zizo. Qu'est-ce que ça voulait dire ?
Il est...
balbutia-t-il sans parvenir à terminer sa question. Les énormes mains d'Akane serrèrent plus fort les épaules de Zizo, comme pour le retenir s'il s'effondrait.
« 6 enfants du tipi sont partis dans la forêt, » expliqua le chef de la tribu, mené par Agnel, bien avant la veillée du sanctuaire. « Seul Noam est revenu vivant il y a quelques jours. Il nous a raconté... Tous les autres ont été... tués. »
Zizo eut l'impression que le tipi basculait. Un vertige le saisit alors que tout son corps tremblait.
« Agnel ? Mort ? C'était impossible. »
Akane passa son bras derrière son dos et le soutint.
« Viens, Zizo. Viens.
Marchons. » Ils s'éloignèrent du tipi et rejoignirent les berges du fleuve, qu'ils longèrent en remontant le courant. Mordelia se tenait un mètre derrière eux. Sous le tipi, Chrysanthe avait cessé de danser. Elle pleurait. Et même le visage de paille et de chiffon de Lali ne parvenait pas à sécher ses larmes.
Que s'est-il passé ?
Demanda Zizo d'une voix blanche.
Comment ont-ils pu être tués ? Agnel, Suzette, Gulo-Gulo, Pépin et les autres ? Par qui ? Comment ?
Ils traversaient un jardin étrange, mélange de roseaux, de fougères et d'herbes folles, ayant tellement poussé qu'elles recouvraient toute la façade du bâtiment rouge devant eux. Quai Branly. Mordelia, qui trottinait derrière les deux garçons, esquissa un geste pour signifier qu'elle allait expliquer, avec ses mots, mais Akane ne le remarqua pas. Il s'arrêta un instant face au fleuve, puis résuma en quelques phrases le récit de Noam, tel qu'il lui avait été rapporté par Bill. Le loup, puis la lutte avec les enfants du château, le combat pour la faim, pour survivre, les bâtons, les arcs, les flèches, Noam qui se sauve avant que l'une ne se plante dans son dos. À chaque nouvelle étape du récit du chef du tipi, le visage de Zizo s'éclairait jusqu'à passer d'un masque de désespoir à un grand sourire. Zizo avait oublié à quel point ses amis du tipi aimaient les légendes. Les histoires inventées de toutes pièces, transformant la réalité en explications fantastiques, puisqu'ils ignoraient leur véritable explication scientifique. Lui aussi, avant de suivre les enseignements du château, avait cru aux monstres imaginaires comme le loup Ponero, aux explications stupides de Bill, aux histoires délirantes de Chrysanthe, à la magie maléfique de Mordelia. Il éclata de rire. Akane le regarda comme s'il était fou.
« Les enfants du château ne mangent pas d'autres enfants !» s'écria Zizo, libéré. « Ils ne mangent même pas de viande, ça leur est interdit. Tout comme il leur est interdit d'utiliser une arme, à l'exception d'un bâton. Jamais ils n'utiliseraient des arcs et des flèches !»
Devant les yeux incrédules d'Akane et de Mordelia, Zizo ajouta
« Vous n'allez pas croire une fable rapportée en gestes par un muet. Agnel est encore dans la forêt, bien vivant, je le sais. » La seule chose vraie dans votre récit est qu'il a rencontré des enfants du château. Celui qui les mène s'appelle Solario. Ils vont bien, ils parviennent à communiquer à distance, sans se parler, avec sa sœur jumelle, Lunella. Et ce n'est pas la chose la plus extraordinaire que j'ai à vous révéler.
Zizo eut soudain envie de tout raconter. Tout.
Par quoi commencer pour expliquer à Akane et Mordelia la vie des enfants au château? Les trois pavillons, les cours, les sciences, l'histoire, les arts, y compris les arts martiaux. Marie-Lune et son dernier message. Le conseil, le tournoi de l'étoile, les appartements de la reine, les roses du verger, le goût sucré des lollipops.
Face à eux, en haut d'un escalier d'une douzaine de marches, une passerelle franchissait la scène. Akane s'avança. Zizo allait lui emboîter le pas en se lançant dans une nouvelle tirade quand Mordelia le coupa.
Tu nous parleras plus tard de la vie de château. On aura le temps pour ça. Nous t'avons envoyé là-bas pour une chose. Une seule chose. L'as-tu oublié ? Comment entrer dans le château ?
Zizo, déstabilisé, jeta un regard à Akane
Mais le chef du tipi demeura de marbre. Lui aussi attendait une réponse à la question de Mordelia.
Je ne sais pas.
Mordelia le fixa de ses yeux noirs. Zizo eut l'impression qu'elle lui enfonçait une lame dans le crâne. Sa voix perçante vrilla son cerveau.
« Si tu es sorti, Zizo, alors tu sais comment entrer, comprends-tu? Nous ne sommes plus en train de jouer, nous sommes en guerre. Si tu ne nous aides pas, nous nous ferons tous massacrer. »
« En guerre ?»
Zizo repensa aux armes qu'il avait vues entassées au pied du tipi, aux fourrures de fauve portées par certains enfants.
« Les enfants du tipi préparent la guerre ?»
Il eut envie de crier que c'était ridicule, qu'il s'agissait d'un malentendu stupide. Il devait s'arrêter, l'écouter, puis il retournerait parler à ceux du château qui l'écouteraient aussi. À 12 ans, qu'on dorme dans le château ou le tipi, on a l'âge de jouer, pas de tuer.
Il eut envie de dire tout cela et bien d'autres mots de paix encore, mais ils restèrent bloqués dans sa gorge, alors que, doucement, Akan lui fit signe de le suivre. Passerelle des Billy. Akan, Zizo et Mordelia s'avancèrent jusqu'au milieu du fleuve, en marchant sur le petit pont qui se résumait à une grande planche de bois posée sur des poutres de fer, aussi courbée qu'un arc. Ils s'assirent sur la rambarde. Le tipi les dominait, tout près. Vu du fleuve, il semblait imprenable, capable d'écraser la ville s'il lui était venu l'idée de bouger et de lever l'un de ses 4 pieds. Akan parla d'une voix calme et déterminée.
« On ne pourra pas éviter la guerre, Zizo. 2 tribus sur un même territoire, c'est une de trop. Nous grandissons. Tôt ou tard, nous devrons nous affronter. Ne serait-ce que pour mesurer nos forces. Nous sommes trop différents. »
Zizo allait protester, mais Akan lui fit signe de l'écouter encore un peu.
« Tu as vécu avec ceux du château. Tu as dormi avec eux, joué avec eux, discuté avec eux. Tu les connais mieux que nous ne les connaîtrons jamais. Nous ne sommes pas idiots, Zizo. Nous pouvons deviner ce que tu as vu, vécu, entendu. Tu sais, Zizo, nous en avons tous rêvé de la vie des enfants du château. Et nos rêves ne doivent pas être loin de la réalité, n'est-ce pas ?»
Zizo hocha la tête.
« Une vie de rêve, » continua Akan. « Mais quand nous étions affamés, dehors, les enfants du château ont-ils partagé leur nourriture avec nous? Quand il neigeait, quand la terre gelait, nous ont-ils invités à dormir sous leur toit? Au prochain orage, quand tout sera inondé, nous ouvrirons-ils leurs portes? Ils sont sûrement plus intelligents que nous, ils connaissent des secrets que nous ignorons, mais sont-ils prêts à partager cette connaissance avec des sauvages tels que nous? Nous qui devons nous contenter pour comprendre le monde d'une poignée de livres trouvés. Tes amis du château ne nous considèrent sans doute pas tout à fait comme des animaux, mais pas tout à fait non plus comme des enfants. Dans tous les cas, pas comme leurs égaux. »
Zizo eut envie de crier que c'était faux. Alix, ou Sabi, ou Lunella, toutes les Lolligers, ou même Ogénor, ne pensaient pas ainsi.
Mais quelle part de l'opinion du château représentait-il? Tous les délégués, Jean d'Arc, Isalis, ou même Liu, qui décidait au nom des élèves des 3 pavillons, l'avait condamné simplement parce qu'il avait gagné le tournoi de l'étoile. Lui, l'étranger. Akan observait l'eau du fleuve tout en parlant. Quelques bateaux amarrés au quai, vestiges d'une vie oubliée, continuaient de rouiller lentement.
« Je ne leur en veux pas, » expliqua Akan d'une voix toujours apaisée. « Ils défendent ce qu'ils possèdent. Je pense que j'en ferai autant à leur place. Ils ont été placés à l'abri derrière les murs du château par des parents savants et organisés. Les nôtres n'avaient pas ces moyens. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, nous ont appris des techniques de chasse et de pêche, des rudiments de lecture et d'écriture, juste assez pour qu'on survive. »
Zizo écoutait Akan, impressionné. Le chef du tipi n'avait sans doute jamais entendu parler de Marie-Lune, et pourtant, il avait deviné que les enfants du château n'étaient pas tout à fait comme eux. Si tous les enfants de Paris étaient orphelins, ceux du château, eux, possédaient une maman qui ne les avait pas abandonnés. Une maman dont il se souvenait.
Justement, pensa Zizo,
Marie-Lune avait laissé aux enfants du château un message de paix et d'amour. Pas de violence, pas de guerre. Zizou se leva d'un bond. Il se retrouva face à Hakan, qui le dominait d'une tête.
C'est idiot, on n'est que des enfants. Ceux du château ne nous veulent aucun mal. Il suffit de...
Hakan baissa les yeux vers lui et Zizou comprit que c'était trop tard, qu'il ne changerait pas d'avis. Les mots d'Hakan étaient rares et le chef du tipi en avait déjà livré plus que d'ordinaire. Une ombre passa. Mordelia était montée sur le muret qui longeait le fleuve et faisait voler sa cape noire. Ses yeux lancèrent de nouveaux poignards.
Zizou, c'est à toi de choisir tes amis, toi seul. Si tu ne nous révèles pas comment tu es sorti du château, nous nous ferons tous massacrer. Tu porteras la responsabilité de la vie de tous tes amis du tipi. Mais peut-être ne sommes-nous plus tes amis ?
Zizou cria. Des canards sur les berges du fleuve, entourés de leurs canetons, s'envolèrent.
« Je ne sais pas ! Je te le jure !»«
Tu mens. »«
Non !»
Zizou essaya une nouvelle fois de trouver un soutien dans le regard d'Hakan, mais le chef du tipi restait impassible. Pensait-il lui aussi qu'il était un traître ? Zizou décida de révéler toute la vérité.
« Je me suis évadé du château grâce à des complices. J'ai suivi les couloirs du métro, enfin, du M, très longtemps. Un parcours compliqué, impossible à mémoriser. Mais mes complices dans le château m'avaient laissé un plan. Un plan que j'ai promis de brûler avant de vous retrouver. C'est ce que j'ai fait. Même si je voulais trahir ceux qui m'ont aidé à me sauver, je ne le pourrais pas. »
Zizou se sentit complètement libéré. Il comprenait maintenant que s'il n'avait pas brûlé ce plan, il se serait trouvé face à un dilemme impossible à trancher. Aurait-il respecté sa promesse à Alix ou sauvé ses amis du tipi? Désormais, il n'avait plus à se poser la question. Il ignorait vraiment comment entrer dans le château.
« Je ne te crois pas !» cracha Mordelia, furieuse. « Tu es avec eux! Tu es devenu comme eux !»
Zizou sourit. Mordelia ne pouvait rien contre lui.
« Peu importe ce que tu penses, j'ai brûlé ce plan. »
Il lança la boîte d'allumettes vide au pied de la fille.
« Fouille-le !» ordonna Mordelia à Hakan. « Si ça t'amuse !» répondit Zizou en levant les bras.
Le chef du tipi, toujours aussi mesuré dans ses paroles et ses gestes, haussa presque imperceptiblement les épaules, comme s'il s'agissait d'une nouvelle lubie de Mordelia. Il se baissa et tâta rapidement le pantalon de Zizou, sa chemise. Sa veste. Il s'arrêta soudain. La main gauche d'Hakan, posée sur le dos de Zizou, lui bloqua les reins d'une pression brutale, douloureuse, alors que sa main droite arrachait un morceau de toile. Zizou tituba sous la violence du geste, sans comprendre. La seconde suivante, Hakan fouillait dans une poche intérieure de sa veste, puis en sortit une feuille de papier. Une feuille de papier que Zizou reconnaissait. Le plan qu'Alix lui avait confié. Hakan le déplia. Il le tint fermement à deux mains, mais permit à Mordelia et à Zizou de l'observer. Zizou, abasourdi, n'arrivait pas à en croire ses yeux. Il reconnaissait chaque couloir, chaque impasse, chaque porte, le tracé exact de son itinéraire dans le métro, jusqu'à l'entrée secrète sous le château, au pied du donjon, par la cour carrée.
« C'est impossible !» paniqua Zizou.
Ses pensées s'affolaient. Comment ce plan qu'il avait brûlé pouvait-il encore se trouver dans sa poche ? Il observa une seconde le sourire satisfait de Mordelia. Avait-elle pu réaliser un tel tour de sorcellerie ? Ridicule, il n'allait pas se mettre à croire à ses idioties. Et pourtant, il en était certain, il avait mis le feu à ce plan. Il avait failli oublier, mais il l'avait enflammé avec un fagot d'allumettes sur les marches du Trocadéro. Il se souvenait des miettes de papier carbonisé qui s'envolaient.
Hakan et Mordelia ne parvenaient pas à détacher leurs yeux de la carte, comprenant que la chance, enfin, venait de tourner. Averti, je saisissais Zizou. Était-il en train de devenir fou? Avait-il cru brûler ce plan? Mais il n'avait pas pu, ou pas osé. Est-ce qu'en plus de mentir à tout le monde, il se mentait à lui aussi? Il n'avait pas tenu sa promesse à Alix, parce qu'il était un enfant du tipi, parce que c'était sa mission, parce qu'il était un espion. Le plus rusé,
le plus sournois de tous les espions. Dans le regard de Mordelia, il lisait même de l'admiration. Zizot eut soudain envie de se jeter dans le fleuve et de s'y noyer. Il repensait aux derniers mots qu'il avait murmurés à Alix, juste avant qu'elle l'embrasse. « On se retrouvera pour sauver la paix. » Alix l'avait sauvé. Alix lui avait fait confiance. Alix lui avait confié le destin du château. Il n'était qu'un traître. « On se retrouvera pour sauver la paix. » Il n'était qu'un menteur. À cause de lui, la guerre était déclarée. Il repensa aux roses du verger, au sucre des lollipops, au velours des tentures, à l'or des trésors, aux chansons de Soutim, aux cartes d'Haussmann, aux livres d'histoire et de géographie, aux statues d'Achille, d'Hercule, d'Athéna, aux sphinx, aux sarcophages, aux momies, aux coffres secrets, aux tableaux sacrés, à toute cette beauté. À cause de lui, tout ce que ceux du château avaient protégé depuis toujours serait saccagé.